Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver, vous, toutes et tous, par les temps qui courent, rencontre les artistes pendant une heure, tous les soirs, ce soir, notre cœur est en joie, c'est Angélique Kidjo qui est dans le studio.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux et Angélique Kidjo.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
En 1985, celle que l'on appelait la reina de la salsa, Celia Cruz, donnait une interview au New York Times et elle disait « Les femmes ont peur de chanter la salsa. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'elles pensent que c'est un truc d'homme. Mais moi je pense que tout le monde a le droit de tout chanter. Je voulais être une mère, une enseignante, une femme au foyer. Mais quand j'ai commencé à chanter avec la Sonora Matancera, j'ai tout de suite pensé « c'est ma chance et je vais faire ça en fait ». Ma mère a toujours été à mes côtés. C'est mon père au début qui n'aimait pas dire à ses amis que j'étais une chanteuse. Les gens pensent que les musiciennes et les artistes de boîte de nuit ne sont pas des femmes bien. Même mon père voyait que j'étais une fille bien. Alors, il a changé d'avis. L'immense carrière musicale de Celia Cruz a donné raison à sa première intuition et c'est aussi parce qu'avec d'autres grandes musiciennes, elle a ouvert les possibles pour la jeune femme que vous étiez, Angélique Kidjo, que vous lui consacrez aujourd'hui un magnifique album. Il s'appelle Celia. Bonsoir à vous et bienvenue.
Bonsoir.
Cet album qui sort sur un tout petit label, non je rigole, chez Universal France Musique. Juste avant de prendre l'antenne, je discutais avec vous de ces marathons promotionnels que doivent faire les grandes artistes comme vous. Et je vous demandais pourquoi rassembler tout ça comme ça sur des petites périodes qui sont éprouvantes en fait. Et vous m'avez dit parce qu'en fait, parler beaucoup, c'est très fatigant et c'est pas compatible avec chanter.
Non.
Pourquoi ?
La voix parlée est l'ennemie de la voix chantée. Parce que quand mon ORL me disait ça, je le croyais pas trop. Il m'a dit, je vais te faire une démonstration. Il m'a mis une caméra dans la gorge. Et on a parlé, on a discuté pendant 10 minutes. Et je regardais mes cordes vocales, mais c'est quoi ce truc, la vie bouge comme ça. Et il m'a dit, maintenant tu commences à chanter. Et c'est le jour et la nuit. En fait, quand on parle, on compresse tes cordes vocales. Elles ne sont pas détendues, en fait. Parce que le débit de parler, les mots, les consonnes, c'est tac-tac-tac-tac dessus. Et quand on chante, en fait, le fait de chanter, c'est le fait de respirer et d'envoyer l'air entre les deux cordes vocales qui sont tendues et qui résonnent. Et ça, le fait qu'on fasse ça, on fasse l'accordéon en parlant et que tout d'un coup on commence à chanter, on étend une corde qui a été tout le temps pas en tension et qui, boum, qui pète. Et quand les cordes vocales pètent, ça veut dire que vous devez être silencieux, ça dépend de la gravité, soit 15 jours, soit 3 mois.
En écoutant ce disque, je me suis dit, elle pourrait tout porter avec sa seule voix. Elle pourrait tout faire a cappella, ça swingerait pareil, ça aurait la même amplitude, la même densité, le même caractère royal comme ça de la salsa, même si bien sûr on reviendra sur la réalisation de David Donatien, les magnifiques musiciens que vous avez avec vous et l'orchestration qui est très belle, mais comme si la voix, elle était absolument primordiale, et je me demande à quel point vous la connaissez comme ça depuis le début, à quel point elle est un outil aussi puissant pour vous.
Mais au début, je ne connaissais pas. J'ai commencé à chanter sans aucune technique, en regardant juste les chanteurs et chanteuses traditionnelles de ma famille. Moi, j'étais en admiration devant elles parce que il y a des cérémonies qui commencent le matin et qui finissent le soir et toute la journée elles chantent. Elles prennent des pauses, elles se relèvent, vont manger un peu, boire et revenir. Et la force de la voix est toujours là. En tant que gamine, je regardais ça, je me dis, mais moi aussi, quand je vais être grande, je veux faire ça. Je veux que ma voix s'entende du matin jusqu'au soir non-stop. Et je me suis rendu compte quand j'ai commencé à je suis arrivée en France et que j'ai commencé à prendre des cours de chant, que le fait d'avoir chanté sans avoir eu de professeur d'enseignement du tout, m'a déjà donné un grain de voix, en fait. Et qu'il fallait que je connaisse. Mon père m'avait dit, si tu vas en France et que tu veux devenir chanteuse, il faut connaître les capacités de tes voix, tes limites, et tes forces. Et c'est là où c'est devenu compliqué pour moi, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne sait pas quand on est une femme, quand on chante. La voix d'une femme n'est pas pareille, la voix chantée d'une femme n'est pas pareille que la voix chantée d'un homme, parce que les cycles menstruels ont un rôle très important
à cause des hormones
sur les cordes vocales. Mmh. Et je l'ai su avec mon deuxième prof de chant, qui s'appelait Joy Kane, qui était venu en France, de New York, pour faire un échange avec l'école de jazz où j'étais. Et m'expliquait que pour être prof de chant, il fallait faire un peu d'études de médecine pour comprendre l'instrument avec lequel on va travailler. Et c'est elle, quand j'ai été la voir en disant qu'à des moments donné, chanter, c'était très douloureux pour moi. Elle m'a demandé, posé la première question, elle m'a dit, vous êtes à c'est quoi votre période
c'est quand vos dernières règles
Quand vos dernières règles, je lui ai dit. Elle m'a dit, vous approchez, c'est-à-dire à partir de 10 jours après les prochaines règles, votre corps produit beaucoup d'hormones, ce qui fait que les cordes vocales s'épaississent. Donc la flexibilité dont on a besoin pour les consonnes et les voyelles, ça devient difficile. Donc avec de la technique, on y arrive. Et c'était la première fois que j'entendais ça. Mmh. Et c'est elle qui m'a envoyé voir mon ORL, monsieur Jean Abitbol, qui est devenu un ami aujourd'hui et qui partout dans le monde, quand je l'appelle, il est toujours présent, et qui m'a expliqué encore plus en détail, les caractéristiques de mes cordes vocales, parce que j'avais des nodules sur les cordes vocales. Et, des copines à moi qui avaient déjà vu des médecins m'ont dit, va voir telle. Il y en a une qui m'a dit, va pas voir celle-là parce qu'à chaque fois que tu vas la voir, je me rappelle même plus le nom de la dame, elle te demande de faire une opération et ça, c'est dangereux. Et c'est la prof de chant, Joy Kane, qui m'a dit, va voir mon ami Jean Abitbol, si lui te dit qu'il faut t'opérer, personne d'autre ne peut te sauver. Et j'ai été voir monsieur Jean Abitbol, et il m'a dit, personne ne touche à tes nodules, jamais.
On garde les cordes vocales d'Angélique Kidjo.
Parce qu'il il m'a expliqué, j'ai demandé pourquoi, parce que moi je bien ça. Et il a une telle passion pour les cordes vocales, monsieur Abitbol, qu'il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a dit, quand on a une phonation de chant, et que les deux cordes vocales font une ligne droite, il n'y a pas d'anomalie. C'est quand ça ne fait pas une ligne droite que c'est une anomalie. Donc moi, quand j'étais en phonation, je chantais, malgré mes nodules, mes cordes vocales étaient en ligne droite. Donc je suis née avec. Ça fait partie de la morphologie de mes cordes vocales, en fait.
En vous écoutant, je me dis que le chant, c'est un bon moyen d'apprendre à se connaître, en fait, d'apprendre à connaître son corps.
Ah oui, oui. Quand on est fatigué, la voix ne répond plus. On parle, on a la voix rock. Pour chanter, c'est difficile. On a mal partout. Pour moi, la voix, c'est mon thermomètre, en fait.
Quand la voix, ça va, tout va.
Et quand la voix, ça va. Dès que je sens un truc, je sais, il faut aller voir le médecin ou il faut pas aller voir le médecin. Et aussi, il y a une hygiène de vie que ma voix m'a imposée aussi sur beaucoup de choses. Parce que je me suis rendu compte que quand je prenais du laitage avant de monter sur scène, c'était l'enfer. Ça créait trop de glaire. Chocolat et laitage avant de monter sur scène, c'est mortel.
Vous avez gardé la voix très très en forme, preuve en est. Kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba.
Me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentito, mientras canto un guaguanco, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco, ea.
Kimbara kumbara kimba kimbamba, kimbara kumbara kimba kimbamba. kimbamba.
J'espère que tout le monde a des très bonnes enceintes chez eux qui peuvent profiter jusqu'à la moindre ligne de basse. Comment vous expliquez, Angélique Kidjo, que ce soit si difficile pour moi de rester assise sur
mes
chaises?
Moi, c'est difficile pour moi de rester.
Qu'est-ce qui fait que cette musique-là, elle donne envie vraiment de se lever immédiatement, quoi?
Parce qu'il y a de la joie dedans.
Pas de partir, mais de danser.
Parce qu'il y a de la joie dedans, parce qu'il y a quelque chose qui nous rappelle que la vie mérite d'être célébrée toutes les secondes, toutes les minutes. Et on oublie souvent ça, on se laisse tellement embarquer par la routine de tous les jours et qu'on oublie, dans la journée que chaque moment doit être savouré. Et c'est que comme ça qu'on reste jeune, c'est que comme ça qu'on combat la dépression, c'est que qu'on combat aussi la négativité. Et moi, pour moi, cette musique, cet album, il arrive à un moment où on en a besoin. On a besoin de se rappeler que tout n'est pas parfait dans le monde dans lequel on vit. Si le monde, la nature n'est pas parfaite, pourquoi serons-nous les êtres humains parfaits? Si notre situation n'est pas parfaite, travaillons ensemble pour le changer. Et être dans la violence n'a jamais été une solution pour moi. Je veux que les gens dansent. Je veux que les gens écoutent la musique et qu'ils se rappellent leur propre humanité en se disant, mais dis donc, même si mon travail est un travail que j'aime pas trop, la vie quand même est là. Et je souhaite à tout un chacun d'entre nous de trouver notre passion. Avec la passion, si on arrive à trouver ce qui nous passionne, on vivra beaucoup plus en paix et on ira plus vers la construction.
En écoutant cette chanson-là, qui fait donc partie de l'album Célia, Angélique Kidjo, on prend un peu l'histoire par le milieu, parce que c'est une chanson qui date de 1974, que elle interprète, mais c'est une chanson qui vous réunit bien des années après, mmh, à Paris, mmh, et qui fait que c'est une sorte de premier petit caillou sur le chemin que vous allez mener ensemble, mmh, pas nécessairement côte à côte, mais dans une rencontre d'abord musicale. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette musique-là, ou dans cette femme, qui fait que, au milieu d'autres grandes musiciennes, parce que c'est beaucoup des femmes dont vous parlez, Angélique Kidjo, c'est comme une forme d'élection.
C'est pas une forme d'élection pour moi, c'est une forme de complémentarité par rapport à toutes les femmes et les hommes aussi, musicalement, qui ont formé l'artiste que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai aimé dans cette chanson qui me raconte, la première fois que je l'ai entendue, j'étais gamine, je chantais, mais je n'avais pas la technique qu'elle avait. Et quand je l'ai entendu chanter Kimbara, je me suis dit, mais c'est pas humain. Comment on peut chanter aussi vite, aussi en tant le temps, et en même temps vous donner envie de sauter, de hurler de joie, et de vous attraper par les cheveux en disant, mais la vie est trop belle, mais j'ai pas envie de m'arrêter de danser. Et c'est ça, Célia, pour moi. C'est ça, la personnification de la joie de vivre. Et elle a peut-être, je ne connais pas vraiment trop bien son histoire de vie, elle a peut-être, même quand, dans les moments les plus difficiles, quand elle venait, son Asukar pour moi a plus de sens aujourd'hui.
Titre de chanson, oui, Asukar.
C'est pas le sucre seulement, c'est qu'il faut chacun d'entre nous a de la douceur. Et même dans les moments de malheur, il y a de la douceur. Il faut seulement nous rappeler que la vie, elle est belle, elle est douce. Et cette voix-là a été aussi pour moi la voix féminine de la salsa. Moi, j'ai grandi dans un monde de mecs. Moi, mes frères faisaient de la musique. J'étais la dernière fille avec que des mecs à la maison. Et avec un père qui nous a dit, pour moi, à la maison, il n'y a pas l'égalité des sexes, c'est un fait. Donc, vous avez autant le même droit que vos frères. Et, mais c'est pas pareil quand il y en a de la salsa. Quand les groupes de salsa, Araquiré, Aragon de Cuba, tous ces gens-là arrivent, et qu'on va voir ça, on danse, on dit, mais c'est que les mecs qui font de la salsa, mais c'est quoi cette histoire? Les femmes ne peuvent pas faire la salsa. Donc pour moi, Célia, elle a complété tout ce que m'a apporté Bella Bello, Miriam Makeba, Aretha Franklin. Elle m'a apporté le fait qu'il n'y a pas de frontières. On peut tout faire quand on veut.
et son sexe n'a pas d'importance.
D'ailleurs, je citais pas par hasard cette interview en 1985 où elle-même, elle s'est dit « Mais les femmes ne chantent pas de salsa, mais pourquoi ?» Et peut-être parce que ben, c'est aussi une musique de club, c'est une musique de la danse, de la nuit, des corps rapprochés, de l'érotisme. Et en effet, ben, pour le père qu'elle avait, en tout cas, c'était pas très bien vu d'embrasser cette carrière et elle a fait un pied de nez en embrassant aussi la salsa comme étant son endroit à elle,
exactement,
son endroit précis. En
et
fait.
C'est ce que j'admire chez elle. Et elle a aussi embrassé son africanité complètement. Et c'est ça. C'est difficile d'arriver comme Célia à comprendre qui on est. Et à savoir ce qu'on veut avec autant de certitude. C'est très, très difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans cette quête-là. Et pour moi, en tant que gamine, elle a fait cette quête-là pour moi. C'est-à-dire l'écouter m'a donné cette confiance en moi pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai eu le soutien de ma famille, de mon père, ma maman, tout le monde. C'était une affaire familiale. Mais en dehors de ma famille, j'avais besoin aussi de personnes en dehors qui ne connaissaient pas mes capacités pour me dire « t'es dans la bonne direction ». Et ça, c'est Célia qui est arrivée avec sa voix percussive. Et je me suis dit, les percussions, j'adore déjà pour commencer. Une femme qui peut utiliser sa voix comme un instrument de percussion. Mais moi, alors, elle fait partie de mon panthéon.
Et on l'entend particulièrement avec cette chanson Kimbara, où en effet, dans la manière dont vous la reprenez, ça tape. C'est presque des solos d'ailleurs.
Hein.
C'est presque des solos de percussions. Et d'ailleurs, quand ils se superposent et se décalent, on pourrait même entendre des musiciennes ou des musiciens de congas ou d'autres qui sont en train d'entrer avec des solos.
Et moi, je l'ai toujours entendu en 6-8. Et c'est là où le travail avec David Donatien devient intéressant.
Qui a réalisé l'album.
L'album, ça lui a pris 1 an et demi de sa vie et de la mienne aussi.
C'est bien de le dire.
Mais parce qu'on voulait vraiment ramener la Célia africaine et lui rendre hommage aussi autant que la Célia contemporaine. Et le 6-8, ça marche à tous les coups. Parce que...
Alors expliquez ce que c'est que le 6-8.
C'est un rythme en 6 temps. Et ce qui est parti de l'Afrique avec les esclaves partout dans le monde... C'est cette cloche de 6-8 qu'on peut faire en 2-4, 4-4, tous les rythmes qu'on veut, on peut la subdiviser en n'importe quel rythme. Et ça qui fait que ça swing. On le trouve dans le funk, on le trouve dans toutes les musiques. Et c'est ça qui a permis aux esclaves cubains de pouvoir créer ce qu'on connaît aujourd'hui comme la salsa, le guaguanco, le son, la rumba, le cha-cha-cha. Toutes les danses sont parties de cette clavée-là. Et pour moi, il était important... Venant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, dont venaient la plupart des esclaves qui ont fini, qui ont atterri à Cuba et dans les Caraïbes et au Brésil, qui ont donc cette cloche en commun avec moi, c'était important pour moi de boucler cette boucle et de raconter cette histoire, pas du point de vue de la douleur de l'esclavage, mais de la création artistique qui est sortie de cette histoire de l'esclavage, qui a impacté toutes les musiques aujourd'hui qu'on appelle les musiques pop, le rock and roll, toutes les musiques ont été impactées par cette cloche et par les voix, les chants. Aux États-Unis, par exemple, par rapport à Cuba ou au Brésil ou dans les Caraïbes où les esclaves ont gardé leur tambour, aux États-Unis d'Amérique, on leur a pris le tambour parce que c'était pour eux, ils le percevaient comme un moyen de communication. Mais ils ont oublié que c'est pas seulement par les tambours qu'on communique en Afrique, on chante aussi. Et donc c'est de là qu'est venu le blues dans les champs de coton, qui a influencé aussi la country music beaucoup, et toutes les musiques en fait. Donc les esclaves écoutaient la musique des maîtres, et les maîtres écoutaient la musique des esclaves. Donc il y a eu un échange culturel qui a profondément changé le monde de la musique tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous parlez tout ça avec la grande connaissance de la musique que vous avez, Angélique Kidjo, aussi parce que vous la faites et que vous la vivez et que vous la performez. Quand vous parliez tout à l'heure de la jeune femme que vous étiez à Cotonou dans les concerts de salsa avec les copains en train de vous demander si une femme allait enfin arriver sur scène pour chanter, quel était votre goût pour l'histoire de la musique? Quelle était la sensibilité pour justement tout ce qui circule de gré ou de force entre les continents, entre les humains pour composer des musiques qu'on appellera ensuite métisses, des musiques qui sont complexes de tout ça en fait.
Mais moi, j'ai baigné dans ça, en fait. Et j'ai eu la chance d'avoir des frères qui faisaient de la musique et à qui je pouvais poser des questions, qui la jouaient aussi. Mes frères ont eu un groupe de musique. J'ai vu mon frère se mettre sur la batterie sans aucune école. Et il a commencé à jouer. Il était très bon à ça. Mon grand frère a appris à jouer la guitare tout seul, a appris à jouer au clavier tout seul, à la basse, à tous les instruments pratiquement tout seul. Et moi, j'étais j'étais complètement dans l'étonnement de ça. Et quand on est en face de cette transformation que la musique apporte à des êtres que vous aimez qui sont proches de vous, vous avez un sentiment de d'éternité, de choses qui sont pas, l'impossible m'a jamais fait peur, en fait. Je me suis dit, si mes frères ont été capables de le faire, moi je peux le faire aussi. Et le fait aussi que la maison était ouverte à toutes les musiques. Mon père disait toujours, il n'y a pas un genre de musique, il y a de la musique. Et le monde entier vous appartient. Donc, en écoutant la musique d'autres cultures, ça vous permet de questionner votre propre culture et de pouvoir faire la boucle. Et ce qui était mon baromètre à moi, c'est d'être capable d'être en mesure d'aller vers la musique traditionnelle, de poser des questions en disant, est-ce que vous pouvez jouer ce rythme? Et quand, en dehors de la langue de la musique, les rythmes résonnaient en même temps. On résonnait avec James Brown, on résonnait avec toutes les musiques que j'ai pu apporter aux musiciens traditionnels. Donc du coup, je me suis sentie complètement légitime dans ma démarche musicale que j'ai aujourd'hui, de ramener tout, de créer un pont entre les musiques, parce qu'à aucun moment, je n'ai eu de doute par rapport à ça.
C'est puissant quand même. Quelle liberté. Enfin, je veux dire, après, on peut aller partout, on peut tout faire dans la vie quand on a ça.
C'est vrai, c'est une grande force pour moi. Et je ne le prends pas à la légère, parce que je suis toujours en train de me mettre en danger musicalement. Je suis toujours en train d'essayer de me mettre au défi de pouvoir faire les choses. C'est pas facile, parce que on peut rester confortable dans un genre de musique qu'on fait très bien et qui marche très bien, mais moi je peux pas faire la même chose tout le temps, je m'ennuie. Mon focus de tout, quand je suis sur scène, il faut que ça bouge, il faut que les choses se passent tout le temps. Et je me suis promis tellement de choses quand j'étais gamine, en écoutant toute cette musique-là, et en apprenant l'existence de l'esclavage par la musique, l'existence de l'esclavage, de l'apartheid, des injustices historiques qui ont été commises. Je me suis dit, comment on arrive à réconcilier les êtres humains si c'est pas par la musique, si c'est pas par ce langage que nous comprenons tous, qui est dans notre ADN, qui est profondément ancré en nous, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de langage, qui n'a pas de frontières. Si on ne peut pas utiliser la musique pour arriver à se parler, le monde n'aura pas de futur.
C'est un gros défi, Celia Cruz, pour vous, Angélique Kidjo.
Ah oui, je vous
disiez, est-ce que je vais y arriver à ce grand morceau-là?
C'est un défi et j'ai fait la démarche de le faire sur scène d'abord. Parce que j'avais envie de voir la réaction des gens. Parce que s'attaquer à une grande dame, à un monument de la salsa féminine, sans avoir un retour du public, il faut être complètement fou. Et j'ai fait un concert il y a 3 ans pour lui rendre hommage au festival de Brooklyn dans le parc. Et la réaction m'a surprise moi-même. Tout le monde. Pas une personne n'est sortie de ce concert sans me dire: bon, mais Angélique, maintenant, il n'y a rien à faire, il faut que tu fasses un album.
Faire un album.
J'étais là-haut, purée. Moi qui voulais faire juste un concert en me disant, j'ai déjà rendu hommage à Célia, là, il faut que je le fasse. Et il était important, dans cette démarche que j'avais, de trouver un producteur qui puisse le faire. Et quand on s'est assis ensemble avec David, et qu'on a commencé à parler.
David Donatien.
On a commencé à penser déjà dans quelle direction aller, pour être d'accord. Parce que les cuivres salsa, on peut les faire. C'est connu, c'est codé, ça se fait très bien. Mais si on veut le ramener en Afrique, comment on fait? Donc, on a fait appel au Gangway Brass Band, à Tony Allen, à Michel Ndenge au cello,
Tony
à la
Allen,
basse.
C'est pas n'importe qui, quand même, il faut dire.
À Tony Allen, c'est lui qui tient le rythme, c'est la rythmique, c'est lui qui tient.
Et, batteur,
et puis, David aussi a fait des arrangements absolument sublimissimes sur cet album. Et chaque fois, il me demandait, tu peux m'envoyer ta voix, et que j'envoyais ma voix. Il était tout content parce que il avait la base déjà. Il avait la voix, il pouvait tout construire autour. Et je me faisais un pari de lui donner la voix la mieux possible pour que ça lui facilite la vie, parce que j'étais beaucoup en tournée, j'étais beaucoup aux États-Unis et il était ici. Donc on a fait beaucoup de FaceTime, on a fait beaucoup de téléphone.
La composition contemporaine des disques qui sortent en 2019.
Et ça a marché. Quand j'ai fait Jazz à Vienne, il est venu voir le concert parce qu'il fallait qu'il voie ce que je faisais pour pouvoir voir ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça qui était intéressant.
On va l'écouter, Celia Cruz.
En Cuba ha sido siempre muy arraigada la música africana por el hecho de.
A Cuba la música africana ha toujours été très enracinée.
Y todos lo trajeron de África.
Dans l'île, il y avait eu beaucoup d'esclaves amenés d'Afrique. Alors je me suis plongé là-dedans aussi. Je me suis dédié à ce genre de chansons. Mais ça ne fait pas vraiment partie de ma vie, car je ne suis pas santera, je n'appartiens pas à la religion yoruba. Quand j'interprète ces morceaux, je chante phonétiquement. Je
ne
peux pas vous en dire le sens. Je ne le sais pas. J'ai entendu ça à la radio. Et puis dans les maisons, il y avait des fêtes de bembe. À côté de chez moi vivait une prêtresse de la Santeria. Elle était centenaire et organisait des fêtes. Alors j'ai eu des facilités pour apprendre les paroles. Chanter ainsi, ce n'est pas un miracle. Il y a bien d'autres personnes que moi qui le font.
Celia Cruz, dans une archive diffusée dans Un Poco Agitato, à l'occasion de son décès en 2003, qui parle des choses qui circulent. Angélique Kidjo, tout à l'heure, on parlait des tambours, on parlait de la manière dont ces tambours ont parfois été confisqués aux esclaves une fois qu'ils arrivaient et qu'ils étaient aux États-Unis. Mais il y a quelque chose qui circule aussi, c'est la langue et les croyances. Mmh. Et quand on entend cette femme, Celia Cruz, parler Yoruba, parler Santeria, parler de services religieux donnés juste à côté de sa maison et d'une langue qu'elle parlait en yaourt, il va falloir que vous nous disiez en fait d'autres liens que ça établit aussi.
Non, mais ce n'est pas du yaourt, ce qu'elle chante, ce n'est pas du yaourt du tout. Elle a bien appris.
Elle était très précise.
Non, mais elle était très précise dans ce qu'elle chantait. Donc, c'est vrai que Yemanja est devenu Yemaya à cause de la langue dans laquelle les esclaves vivaient. Et c'est ce syncrétisme des deux qui est très important, de la religion catholique et de la religion des Orishas, qui a permis vraiment aux êtres humains qu'ils étaient, qu'on avait déshumanisés, de garder leur humanité, leur dignité. Parce que cette culture, ils l'avaient dans leur ADN, ils étaient adultes quand ils sont venus. Donc, la transmission orale a fonctionné de génération en génération. Et cette culture est puissante, elle est là. Quand on dit qu'il n'y a pas de religion avant l'arrivée des Occidentaux en Afrique, je dis que c'est faux. Parce que l'homme a toujours voulu avoir une religion, a toujours voulu comprendre la nature. Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer un jour le tonnerre qui gronde et l'éclair qui tombe sans que tu puisses... L'homme a toujours voulu trouver une explication aux choses. Donc les religions sont venues de là. Et ce qui est important dans cette religion de Orisha, c'est que c'est si proche de la religion grecque, des mythologies grecques, du Zeus. Et ma fille a fait un travail de comparaison des caractères qui est assez épatant, parce que Zeus et Shango ont les mêmes caractéristiques. Les déesses, les dieux, ils ont tous exactement les mêmes caractéristiques. Donc l'homme a besoin de cette spiritualité. Et donc cette spiritualité, on la trouve dans la nature, on l'explique par des événements peut-être météorologiques, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de météo. Il fallait trouver un sens à sa vie et on devient ces orishas. C'est-à-dire que ces éléments sont devenus des dieux qui sont des êtres humains vivants.
Quand elle, Celia Cruz, dit qu'elle chante une langue qu'elle ne comprenait pas, une langue qu'elle entendait à la radio ou à côté de chez elle, le yoruba, qu'est-ce qu'il en est de vous, Angélique Kidjo?
Ah, moi, je comprends le yoruba et je le parle parce que une partie de ma famille vient du Nigeria et même à Cotonou, j'ai une partie de ma famille qui parle le yoruba. Moi, j'ai grandi dans les deux, dans trois, quatre différentes langues et c'était intéressant de voir comment j'arrivais à switcher de l'un à l'autre.
Vous les gardez toutes?
Oui, il suffit que j'aille dans la famille de ma maman, quand il y a des cérémonies, je me mets à chanter en yoruba, je vais à Ouabida, je me mets à chanter en fond. Donc voilà, quand on a, dès l'enfance, quand on est nourri de ça, le cerveau de l'enfant emmagasine beaucoup de choses et ça reste en fait.
Et chanter cette langue-là avec Celia Cruz dans cet album que vous lui dédiez, Angélique Kidjo, ça fait quoi par rapport aux autres langues que vous avez pu chanter?
Ah, mais c'est puissant, hein, pour moi. Parce que c'est une preuve pour moi, que on ne peut pas effacer la mémoire d'un être humain. Même la personne qui souffre d'Alzheimer a toujours quelque chose dans son cerveau.
Notamment par la musique.
Mais notamment par la musique. Donc, vouloir déshumaniser des êtres humains pour les rendre, pour les réduire en esclavage, c'était un rêve, c'était pas un rêve vraiment réaliste. Et cette culture, justement, c'est pour ça que je dis, il faut toujours préserver sa culture. La culture nous rend plus forts. Elle nous donne une identité, elle nous donne un moyen de nous exprimer entre nous et pour les autres aussi. C'est pour ça que dans toutes les dictatures, quand ils s'installent, c'est la culture qui est le premier endroit où ils commencent à casser tout, à arrêter tous les artistes, parce que ça nous rend libres. Nous pouvons penser librement, nous pouvons nous rendre, ça nous rend beaucoup plus forts et ça nous rend beaucoup plus dans la résistance. Ça nous aide beaucoup. Donc, on a envie de faire taire la voix du peuple par de la musique en arrêtant la musique. Donc, forcément, les esclaves qui chantaient en Yoruba, c'était quoi? C'était une façon de dire à leur maître: vous avez beau vouloir nous déshumaniser, nous venons d'une culture dont nous sommes fiers. Notre dignité humaine, personne ne la prendra jamais. C'est pour ça que j'aimais beaucoup cette façon de, qu'elle soit intéressée à ça, même si c'était pas sa religion, mais quelque part ça résonnait en elle. Donc elle n'a jamais eu honte de ça. Si elle avait honte, elle ne l'aurait pas chanté. Même si c'était du yaourt, quelque part, profondément au fond d'elle.
Elle y reconnaissait quelque chose.
Exactement.
Je pense quand même que vous arrivez en 1983 en France, vous quittez le Bénin. Les années 80 en France, c'est particulier.
Un sonneau mondial.
Comment les avez-vous vécues? Vous avez une vingtaine d'années.
Moi, je suis arrivée et j'avais soif de musique. Hein. Parce que quand la dictature communiste est arrivée en 72, la radio est devenue une radio de propagande. On n'entendait plus aucune musique qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire que de 72 à 83, tout ce qui s'est passé au niveau musical, je n'étais pas au courant. Donc quand je suis arrivée en France, ma priorité numéro un, c'était écouter de la musique. Tout ce qui passait, j'écoutais. Je n'ai jamais été droguée, je ne sais pas ce que c'est, mais j'étais en manque de quelque chose. Et j'écoutais énormément de musique. Donc j'essayais de rattraper mon retard. C'était des moments très émouvant pour moi, et j'ai découvert Higelin, parce que Higelin n'était jamais arrivé à Cotonou. Il y avait plein d'artistes qui s'étaient sortis, Michel Berger, c'est un truc de fou. J'étais là, je dis, ah, je vais écouter ça. J'ai fait 2 ans dans une école de chansons qui s'appelait l'Asiatole, les chansons de Paris et d'Île-de-France, où je me suis vraiment imprégnée de la musique française. J'ai Maxime Le Forestier, c'est là où je l'ai découvert. Beaucoup d'artistes que je n'écoutais, que je n'ai pas entendu. Ça s'est arrêté au dernier disque de Nougaro que j'avais, et d'Edith Piaf, et ça s'est arrêté là. Et les Johnny Hallyday, quand le Noir c'est un Noir, tout ça, tout ce qu'il y avait en 1960 jusqu'au début des années 70, tout s'était arrêté après. Donc pour moi, vivre en exil, c'est pas facile. Et la musique m'a permis vraiment de ne pas sombrer, et m'a donné la force de me reconstruire et de me redéfinir en tant qu'artiste et de recommencer à zéro. Et c'était ce défi-là qui m'a permis tous les matins de me lever pour aller à l'école, pour aller apprendre sous la neige, sous la pluie, par tous les temps. Et j'étais obsédée par la musique. C'était dingue.
Mais c'était pas complètement à zéro, si je crois, Angélique Kidjo, ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire, partout où on va, on garde en soi très fort les choses qu'on a apprises, les langues qu'on connaît. Ça veut dire que 1983, vous faites table rase?
Non, je fais table rase, pas du tout. Je recommence ma carrière, c'est ce que je veux dire. J'avais déjà une carrière en Afrique. Donc, ici, personne ne me connaît.
Ah, à zéro dans ce sens-là.
À zéro dans ce sens-là, parce que quand on arrive quelque part et qu'on veut se faire une place, il faut arriver à comprendre la culture dans laquelle on arrive. Arriver à savoir où est-ce qu'on peut, on peut se mettre dedans. Je ne suis pas venue en France avec cette arrogance en me disant, j'étais une star chez moi, donc le tapis rouge doit m'être déroulé. Jamais, à aucun moment, ça ne m'est passé par la tête. C'est le fait d'être devenu adulte. Avec le, j'étais avec mon frère Yves. Heureusement qu'il était là et qu'il m'aidait parce que c'est lui qui m'a aidé à trouver un job de chanter avec un groupe de ses potes et de faire les chœurs. Et son copain disait, tu sais, Angélique va faire les chœurs. Je dis oui, hein, je veux savoir ce qui se passe derrière. Il y a toujours des choristes derrière moi. Moi, si je veux être choriste pour savoir comment ça se passe, comme ça la prochaine fois, je saurais dire aux choristes, non, c'est pas ça que je veux. Donc je n'avais aucun problème pour recommencer. C'est à zéro. Et tout en étant à l'école, j'étais toujours sur la scène, je ne l'ai jamais quittée, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de petit à petit me reconstruire. Et c'est vrai, quand je suis arrivée à l'école de jazz et que j'ai rencontré mon mari qui était aussi, sinon plus obsédé par la musique que moi.
Ça tombe bien, vaut mieux.
Je me disais, moi je ne me marierai jamais parce que si je ne trouve pas un mec qui est aussi fou de la musique que moi, mais je vais péter un câble au bout de deux jours. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai continué à faire ce que j'adorais faire. Et tous les deux, on parlait de musique, on bouffait, on mangeait musique, on dormait musique, c'était un truc de fou. Culture par les temps qui courent, Marie Richieux avec Angélique Kidjo.
Je vais appeler votre ORL et je vais lui dire que vous chantez pendant que les chansons passent à la radio et que tout à l'heure on a dit qu'il fallait pas mélanger la voix chantée et la voix parlée.
Je me
mais c'était plus fort que vous.
Ouais, j'ai pas chanté à la même, hauteur.
À la même hauteur. Ouais, en effet, vous étiez plus bas et plus doux dans cette chanson Oya Dioza, qui fait partie du disque Célia, une chanson de Célia Cruz que vous réinterprétez. En écoutant, je me dis, ça commence par des guitares qui pourraient être des guitares de l'Afrique de l'Ouest, et ensuite ça se développe comme une Mercedes Sosa, grande chanteuse argentine. C'est fou ce qu'il y a dans dans ce morceau-là.
Ah oui, c'est pour moi une façon de rendre hommage à nos orishas et aussi à cette force que ça nous donne. Cette force terrienne qui est là, qui nous porte tous les jours, cette terre-mère qui nous porte tous les jours et qui a porté toutes les femmes qui ont eu à mener des combats, qui ont eu à apporter quelque chose à l'humanité. Oya Dios, ça c'est mon rendre hommage pas seulement à Célia, mais aussi à toutes les femmes qui sont venues avant nous.
Elle dit quoi cette chanson?
Yemanja et Oshun. Je rends hommage à Yemanja, la déesse de la mer, et le Oshun, c'est le dieu du métal. Ogun, c'est l'équivalent de Hermès.
Le messager.
Les messagers. C'est-à-dire que tous ces dieux-là qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, le fer nous a permis de nous nourrir de la terre, de pouvoir planter, de pouvoir creuser la terre et labourer la terre pour nous nourrir. Yemanja, à la mer, nous a permis d'avoir accès aux poissons de la mer et qui est en même temps la déesse des amoureux, qui veut toujours la personne parfaite pour ce qu'elle aime et qu'elle prend sous son aile. Et Hermès, qui est le messager des dieux, qui aime la facette, qui nous rappelle quand même que les blagues, il y a des blagues qui peuvent mettre le bordel, et en même temps, il y a des blagues qui peuvent faire rien. Mais lui était beaucoup plus facétieux dans le sens où il créait le chaos, et restait en dehors et commençait à rigoler. Et c'est ça, la terre, c'est ça. Tout ça, c'est le chaos se crée dans notre vie quand il y a des problèmes. Comment on arrive à le surmonter si on n'a pas de force intérieure? Si on ne se base pas sur cette terre qui nous porte depuis des siècles, qui est là, on ne sait pas comment cette terre est là, sur laquelle on vit. Mars, c'est différent, où il n'y a aucune autre planète que la Terre. C'est pour ça que on a fait cette amplitude, on a essayé de mettre avec David un peu de tout dedans. C'est-à-dire la guitare, la voix, Sosa, tout le monde est dedans. Toutes les femmes qui font partie de ce club de penseuses.
Parce que c'est ça pour vous, Angélique Kidjo, faire de la musique, c'est penser. Parce qu'on a dit toujours tout à l'heure, on a dit bouger, on a dit rendre grâce aux vivants,
oui,
on a dit
clair,
la joie, on a dit
penser,
la danse.
Il faut penser, il faut avoir une réflexion par rapport à ça. C'est-à-dire quelque chose nous touche, ça doit passer par la réflexion avant qu'on arrive à laisser l'émotion prendre le pas sur la pensée. L'émotion, c'est dans l'instinct, c'est dans nos tripes. Et la pensée nous permet de contrôler cette émotion et de pouvoir diriger nos actions basées sur cette émotion et notre réflexion sur quelque chose de concret. Et c'est ça qui est important de faire. Mon père disait toujours, votre intelligence, votre cerveau, c'est votre arme absolue. Il faut lui laisser de la place, mais il faut aussi laisser de la place à l'émotion. Les deux, quand ils sont combinés ensemble, ça vous amène très loin parce que vous êtes capable de voir au-delà des différences, au-delà des difficultés, pour aller vers l'essentiel.
On disait Célia Cruz, la reine de la salsa, avec un morceau comme celui-ci, on y est encore dans la
Absolument.
Salsa? Ah ouais?
Absolument. La salsa, c'est ça, la fondation de la salsa. C'est ça.
C'est ce qu'on vient d'entendre.
C'est de là qu'est partie les pulsations du 6-8. C'est dans la salsa. Donc, on n'a peut-être pas eu la cloche, mais elle était là. Cette vague qui, quand on danse la salsa, on fait des vagues. Quand on bouge, c'est ça la salsa. Donc, sans ça, il n'y a pas de salsa, en fait.
Vous la dansez, vous?
Absolument.
C'est vrai?
Absolument, j'adore.
Bien?
J'ai toujours dansé la salsa toute ma vie.
Ah oui?
Ah ouais.
Vous dansez plutôt bien la salsa, du coup?
Ah, j'adore.
Puisque vous parlez de ce club des penseuses, on va en écouter une assez importante.
Blow it, blow it, blow it, mi adapalo.
c'est plus que la classe quand même, Angélique Kidjo.
Ah ça, c'est...
Je vous laisse nous la présenter.
Mais c'est Bella Bello et je me rappelle le jour de son décès, j'ai pleuré comme... C'est comme si quelqu'un m'avait mis un pieu dans le cœur. J'ai me tenu la poitrine, j'ai hurlé. Parce que...
Comme si c'était quelqu'un de votre famille.
Vous ne pouvez même pas vous imaginer, parce que quand je l'écoutais, moi, cette chanson dans ma chambre, quand j'étais gamine, je voyageais. Sa voix est réconfortante, magique. Je ne sais pas vous dire ce que c'est. Quand je l'ai même en l'écoutant, là, j'ai envie de l'écouter toute la soirée. J'ai envie qu'elle soit dans le lit avec moi, qu'elle me réconforte.
Mais elle a quelque chose de ça, d'ailleurs, l'orchestration de la fin. Là, on a vraiment l'impression que c'est Bonne Nuit, les petits. C'est vraiment la fée qui vient te dire bonsoir.
Elle était incroyable. Elle me manque énormément. Et c'était une grande perte pour nous en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas comment les Togolais le vivent, mais pour moi, en tant que béninoise, et chanteuse qui comptait énormément sur elle, qui écoutait religieusement toute sa musique, même si je ne comprenais pas certaines des langues qu'elle parlait, qui sont du nord du Togo, c'est... Rien que d'en parler, j'ai encore envie de pleurer, parce que c'est... Des fois, si la mort était un être humain devant moi, je lui filerais une claque, quoi.
Parce que c'est des voix, en fait, dont vous savez qu'elles sont sur le monde. Elles sont vivantes sur le monde. Et c'est pas exactement pareil d'avoir des disques et que d'avoir des corps qui les portent, si je comprends bien.
C'est vrai, elles sont toujours là. Elles sont toujours là, mais j'aimerais bien quand même que le corps soit là aussi pour continuer à nous bercer. Mais c'est vrai qu'elle est intemporelle. Et moi, je fais de telle sorte que toutes ces femmes qui m'ont influencée ne soient pas oubliées aussi. Parce qu'on passe tellement... Les choses passent tellement très vite et j'ai pas envie qu'on oublie Bella Bello.
C'est la raison pour laquelle vous avez choisi cet artiste le 11 novembre 2018 ?
Je l'adore déjà avant le 11 novembre et quand on m'a demandé de venir chanter pour rendre hommage aux soldats africains qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait personne qui était plus adapté qu'elle. Si elle avait été vivante, je crois que c'est à elle qu'on l'aurait demandé et elle l'aurait fait avec beaucoup de grâce. Et pour moi, chanter cette chanson ce jour-là, j'étais pas seule. Je sentais sa présence et je sentais son petit sourire d'ange qu'elle avait parce que ce monde a besoin plus de paix qu'autre chose.
Est-ce qu'elle souriait aussi à voir l'espèce de parterre de bonhommes ? Parce qu'il faut quand même dire que chefs d'État, c'était vraiment des bons hommes habillés que en noir, sous la pluie, à vous regarder en rentrée, en majesté, pour porter cette chanson sublime. Est-ce que son fantôme se marrait un peu au fond d'elle ?
Absolument. Son fantôme me disait, vas-y ma chérie, vas-y, donne-leur ce message.
Mais on voit ça d'ailleurs.
Donne-leur ce message et s'ils ne le comprennent pas, ils ne comprendront jamais. Mais... C'est toi qui dois le faire aujourd'hui. Et c'était difficile parce qu'il pleuvait, il faisait très très froid. Et en même temps, je portais tout un continent sur mes épaules. C'était pas facile pour moi. Et je ne pouvais pas ne pas le faire. Je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à ces hommes qui sont venus mourir en France, qui ont laissé des orphelins derrière, qui ont laissé des veuves derrière. Et ça a impacté ces enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et qu'on n'en parle pas, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas dans la violence que je suis venue, c'est juste dans la douceur et dans cette sagesse africaine que j'ai côtoyée beaucoup avec les personnes âgées dans mon pays et sur le continent. Et pour moi, c'était toute l'Afrique, du nord, du sud, du centre, de l'est, de l'ouest, tous les Africains.
Ça fait un sacré poids sur les épaules quand même pour commencer à une chanson, Angélique Kidjo.
C'est exactement ça. Et quand je suis rentrée, ce n'était pas forcément un public... exubérant qui était là.
C'est clair.
Et que il y a eu des moments très difficiles pour moi où j'ai eu des vibrations très négatives que j'ai ressenties profondément. Mais comme je le disais tout à l'heure, elle était avec moi, Bella Bello. Je la sentais. Donc, elle m'a soutenue, elle m'a aidée. Quand je suis sortie, j'avais froid et en même temps, j'avais chaud. Et j'étais fatiguée comme si j'avais fait un concert de 2 heures parce que c'était émotionnellement très, très difficile pour moi.
Moi, je pense que chaque artiste doit savoir qu'ils ne sont pas seulement responsables d'eux-mêmes, mais nous sommes entourés par les autres êtres humains. Et comme on a la chance et le don d'avoir chanté, être écouté, il faut toujours chercher à à dire les choses aussi qui ne vont pas dans notre société. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça, parce qu'il y en a qui disent « Me, I just want to sing, I don't want any problems ». Mais on ne peut pas fuir nos problèmes, parce que nous sommes là. Et moi, je viens d'un pays, l'Afrique du Sud en particulier, qui est très difficile pour nous, et bien que nous sommes la majorité, bien que c'est notre pays, nous sommes colonisés. Et on ne peut pas toujours chanter « baby, baby » pendant qu'il y a de la souffrance et tout ça. Il faut souligner tout ça là pour que le monde entier connaisse, parce que c'est les autres gens du monde qui peuvent nous aider à sortir de ces problèmes. Et je chante aussi l'amour. Moi, je pense que chaque artiste doit chanter la vie entière. Et dans la vie, il y a des beaux choses, il y a des vilaines choses. Il faut toujours ne pas fuir l'autre et aller envers l'autre. Il faut, you have to sing life in general and in its totality.
Quelle voix ! C'est une archive de Myriam Makeba.
Elle a complètement raison.
Ouais, 1979. Angélique Kidjo, vous avez beaucoup parlé de toutes ces femmes qui vous portent. Vous parliez à l'instant du fantôme de Bella Bilot. Ce 11 novembre 2018, on a évidemment énormément parlé de Celia Cruz. Et au milieu de celle-ci, Myriam Makeba, qui occupe une place importante aussi dans votre cœur, dans la manière dont vous faites vivre sa musique. 1979, cette archive, on est pile 10 ans après 1969, le Festival panafricain à Alger, où elle fait une performance hallucinante,
incroyable.
Hallucinante.
Là, elle a chanté à Vilekia.
Incroyable, vraiment, c'est marquant, quoi. Et là, elle avance avec sa voix tellement douce, dans une première interview en français, pour dire ces choses qui paraissent évidentes et en même temps, vous le disiez, essentielles, en fait.
Absolument. Moi, j'ai eu la chance de connaître Myriam pendant des années. C'est un volcan. Il faut pas l'énerver.
C'est l'eau qui dort, en fait.
Ah ouais, ça, il ne faut pas la chercher. Et elle s'est battue. Elle a été la première artiste africaine à prendre la parole aux Nations Unies pour demander le boycott de son pays. Ça, il faut le faire. Et c'est pour ça qu'elle dit, on ne peut pas seulement se taire. Il faut dire des choses. C'est les personnes qui veulent chanter uniquement parce qu'elles ne veulent pas voir leur carrière impactée par les vérités. Et quand on est un artiste et qu'on est la voix de ceux qui n'ont pas de voix, il faut qu'on parle de tout, pour qu'on puisse parler de tout sans pour autant avoir un prix à payer pour ça. Mais malheureusement, ceux qui disent la vérité n'ont pas d'amis et l'argent n'aime pas la vérité, n'aime pas la lumière. L'argent aime le mensonge et aime l'obscurité et aime tout ce que personne ne peut, des trucs qu'on ne peut pas dire, en fait. Et c'est ça aussi la difficulté de sa carrière. Et c'est aussi un peu la difficulté de ma carrière aussi.
Parce que vous en pâtissez de cette liberté de parole?
On en parlera une autre fois. non, c'est que moi je pars du principe que le silence nous a amené là où nous sommes aujourd'hui. Et que le fait qu'on n'ait pas été tous autant que nous sommes assez dans la parole contre l'injustice, contre les choses qui sont intolérables, les réseaux sociaux ont créé des monstres qui prennent le pas sur notre liberté et qui mettent en danger la démocratie. Donc, soit on continue à demeurer dans le silence en disant ça va passer, soit on s'attend à des conséquences qui vont faire qu'on aura tous très très mal.
Vous pensez à quoi aujourd'hui, Angélique Kidjo, comme chantier absolument incontournable qu'il est dans votre responsabilité de... Voilà, d'évoquer, on entendait Myriam Makeba dire « ça fait partie de la responsabilité d'avoir le don de chanter, d'avoir le don de la parole, alors je parle
». Moi, ce qui est urgent pour moi, c'est l'éducation toujours. Je dis toujours que quand les gens sont éduqués, bien informés, que ce n'est pas seulement par WhatsApp qu'on a les... Il faut aller dans les livres. Des fois, on ne trouve pas la vérité sur Internet, mais les livres sont encore là. Les bibliothèques sont encore là. Lisez, allez à l'école... Instruisez-vous, connaissez votre propre histoire pour pouvoir connaître celle des autres. Et moi, j'investis beaucoup dans l'éducation des jeunes filles parce que quand on éduque une jeune fille, on lui donne sa propre dignité. C'est-à-dire, on lui redonne sa confiance en elle et sa capacité à se suffire, à s'auto-suffire. Et je crois que si on commence par diminuer les budgets pour l'éducation, on va dans le mur parce que à ce moment-là, c'est l'obscurantisme qui s'installe. Et moi, je suis pas pour la violence. J'ai jamais été pour la violence. Je n'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris la violence ou la haine. Je ne comprends pas ça. Je n'ai jamais pu le comprendre. Une seconde, même quand je m'énerve deux secondes contre quelqu'un, ça m'épuise. Après, je déteste ça.
C'est crevant, la violence. Arrêtez la violence, tout le monde.
Ah, mais ça fatigue. C'est fatigant. Se mettre en colère, c'est fatigant. Donc, je dis, il faut qu'on retrouve notre intelligence émotionnelle et qu'on ne laisse pas les téléphones décider pour nous. Aller vers les gens, ayons le courage de confronter nos peurs et d'aller vers les autres.
Et de confronter nos joies aussi, et les réunir, absolument. Par exemple, dans des salles de concert, Angélique Kidjo.
C'est pour ça que je fais ce que je fais.
Mais oui, vous serez en concert le 14 mai au Bataclan à Paris, le 16 juin à Toulouse. Vous les voyez venir comment, ces concerts où la musique de Celia Cruz va percuter la vôtre?
Moi, je sais que je serai prête à danser toute la soirée. Et je peux pas dire ce que le public va faire. Ça, c'est toujours la surprise. Et je ne prends jamais un public pour acquis jusqu'à ce que le concert soit fini. Donc, on verra comment ça va se faire, ça va se passer. Mais ce que je dis aux gens, c'est de venir avec leurs chaussures de danse.
C'est un album magnifique. Celia, merci beaucoup, Angélique Kidjo, d'avoir été avec nous.
Merci.
Ay, pero La Habana, qué linda. Goza cubano de la banda acá.
Cuba, qué lindo son tus paisajes. Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son.
Alors qu'Angélique Kidjo me fait la démonstration qu'il est tout à fait possible de danser assise sur une chaise, je dis que c'était Élise Le à la prise de son ce soir, à la réalisation Lise Marie Barré. Un grand merci à Marianne Chassor, Romain Bebec de Lièvre, Jeanne Aléo, c'est Valentin Rémy qui prépare et pense l'émission avec moi tous les jours. FranceCulture.fr pour toutes les informations, le podcast, les archives, les musiques, évidemment. Très belle soirée sur France Culture, moi je vous dis à demain.